Karen Mock, vous organisez les colloques de Cerisy?
Oui, je co-organise ce colloque avec Nicolas Rabin, Béatrice Saintouze et Sarah Anaïs Crevier-Goulet.
C'est quoi exactement le colloque de Cerisy?
Alors, c'est,
Cerisy, c'est en Normandie. Hein.
C'est en Normandie. C'est un colloque qui se tiendra du 23 au 28 juin 2020 et où on aura le plaisir d'accueillir de très nombreuses personnalités pour échanger autour de l'œuvre de Julia Kristeva. Et d'ailleurs, Samuel nous fait le plaisir de nous rejoindre.
Ça existe depuis très longtemps, hein, bien sûr, le colloque de Cerisy, Julia Kristeva.
Écoutez, ça me touche beaucoup. Moi, nous sommes allés avec Philippe Soler, c'est un colloque sur Artaud Bataille, en 69, je crois, où il y avait beaucoup de calvados qui coulaient et beaucoup de choses excessives.
Oui, parce que c'est convivial, on passe une semaine, voilà. on suit des conférences.
On mange, on boit et on travaille.
Dans moi, un très
parfois,
beau château.
Quand on fait des célébrations comme ça et quand on parle de moi, parfois je me dis, mais qui c'est cette Kristeva? Je me reconnais pas dans l'institution, dans les célébrations, mais quand j'entends parler les gens, j'entends des éclats de mes difficultés, de mes traversées, et je laisse faire. Et je les remercie. C'est tout ce qu'il y a à dire au monde, de le remercier.
Karen Mock, tout le monde peut venir hein, assister aux conférences.
Bien sûr, tout le monde peut s'inscrire à partir de la mi-mars. Et le titre du colloque, qui, je pense qu'il résonne avec ce qui a été dit précédemment, c'est « Révolte et reliance, humanité, psychanalyse et littérature ».
Reliance, c'est quoi ?
Ah, peut-être en des termes simples, c'est notre capacité à sublimer, notre capacité à penser avec le langage et au plus près du corps. Bon, c'est peut-être difficile
difficile
d'exprimer
non,
en des
termes. Non, mais c'est très facile parce que Corinne ne veut pas parler de la maternité. Moi, je le diagnostique. On parle dans la psychanalyse moderne du petit enfant. On parle pas beaucoup de la mère. Et je dis que l'enfant ne survivra pas sans la reliance maternelle. C'est-à-dire à la fois osmose, violence aussi, folie et transmission du langage. Et c'est ce lien-là qui supplée beaucoup aujourd'hui au délitement du lien républicain, du lien hominien aussi. Et cette capacité de reliance, c'est ce qu'on donne aussi à travers l'analyse. Quelqu'un qui a fait une analyse commence à posséder cette reliance. On dit c'est le féminin de l'homme, mais c'est universel. Les hommes peuvent être parfois plus reliants que les femmes. Donc c'est quelque chose que je cherche, moi, comme une espèce de fondation de l'humanité.
En tout cas, dans ce colloque, ce qui nous tient à cœur, c'est de montrer une pensée qui est exigeante, qui va au-delà des limites, qui se révolte par moments, qui va contre ce qui est communément admis. Et c'est une pensée qui est liée à l'héritage des Lumières, à une pensée encyclopédiste, une pensée qui s'étend dans des champs des humanités de façon très large, sans avoir peur de traverser à chaque fois ces disciplines, ces géographies, ces temporalités.
On a évoqué Roland Barthes à plusieurs reprises avec vous. Vous l'avez bien connu. Il a dirigé votre thèse, Julia Kristeva. Il a été très présent à ce moment-là, à votre arrivée en France.
Hein.
Et il est passé, lui aussi, à Cerisy en 1977. Je rappelle que Barthes est l'un de nos grands intellectuels, grands écrivains aussi, l'auteur de Mythologie, un expert de la langue, de la société, de la littérature, un écrivain. Vous l'évoquez à plusieurs reprises.
L'écriture, aujourd'hui, l'écriture est une dépense, ce que Georges Bataille appelait une dépense inconditionnelle, c'est-à-dire une dépense pour rien, si vous voulez. C'est une sorte d'activité perverse qui, effectivement, en un sens, ne sert à rien, ne peut pas être comptabilisée, voyez-vous, qui excède toujours les services qu'on peut lui demander. Sans doute, l'écriture fait partie d'un échange social. Quand on écrit, on publie des livres, ça fait partie d'un marché de l'édition, ça relève d'une certaine économie. Mais dans l'écriture, il y a toujours quelque chose en plus qui excède cette rentabilité et qui est le pour rien. Et qui a, je pense, défini très exactement ce que j'appelais au début la jouissance d'écriture. C'est une jouissance pour rien, c'est donc une perversion.
Il est émouvant, Barthes, quand il s'exprime. Il y a toujours un peu de tristesse dans sa voix, un fond mélancolique peut-être, dirait la psychanalyste Julia Kristeva.
Oui, c'est quelqu'un qui éprouve très profondément la nécessité de passer l'amour et le corps dans le langage. Il dit que l'écrivain est celui pour lequel le langage est un problème. il l'éprouve en profondeur, et dans ces profondeurs, il trouve sa proximité avec sa mère et sa tuberculose. Je lui dois beaucoup, il m'a fait un immense cadeau. Il a écrit un texte poignant, je crois qu'à la sortie de mon premier livre, qui s'appelle « L'étrangère », où il me voit comme quelqu'un qui brise les tabous, les normes, la tranquillité des familles, etc. Donc parfois, je le lis avec beaucoup d'humilité. Et il m'a écrit aussi des lettres, parmi lesquelles une qui me dit qu'il s'inquiète beaucoup de ma santé, et il pense que je me repose pas assez, et que je dois aller quelque temps dans un lieu, comme lui, il est allé au sanatorium, et on écoutait ses cours. C'est une langue, vous entendez cette voix qui traverse la mélancolie, justement, qui la sublime, et qui entrait dans les plis de nos passions, qui nous fascinait. Mais qui ne fascinait pas pour être des élèves d'eux. Il n'y a pas d'épigone de Barthes, mais il y a des chercheurs. Il a fait de nous des chercheurs.
Vous en parlez avec Samuel Doc, pas mal d'ailleurs, assez souvent de Roland Barthes dans le livre « Je me voyage, Samuel Doc ». Et vous évoquez notamment son homosexualité pas heureuse, une homosexualité assez tragique, Samuel Doc.
Oui, tout à fait, Julia, vous en parlez beaucoup dans notre livre, mais pas comme d'un intellectuel ou pas comme d'un modèle, mais comme d'un ami, et je pense que c'est ça qui est très touchant.
Oui, mais c'est cette histoire qui nous a légué. On était à l'époque où tout est permis du désir de 68 commençait à montrer ses limites, on n'était pas encore dans le virtuel, et il a inventé l'amour, la sensualité, le sentiment. Il disait que ce qui est indécent, c'est pas le sexe, mais la sensation, le senti. Et il se traitait lui-même d'intraitable amoureux. Ça nous parle aujourd'hui encore. Blessure ou bonheur, il me vient parfois l'envie de m'abîmer.
Ça, c'est du Barthes.
Et c'est l'amour, avec cette teinte de mélancolie que vous avez relevée, mais qui est la capacité de le dire, ce qui l'a conduit d'ailleurs au bord de la mystique, avec les mystiques qu'il cite dans son livre Fragment
d'un discours amoureux.
Et que j'ai suivi, parce que là, il parle du fait de se confronter à un rien. Celui qui écrit ne peut pas ne pas se confronter au rien de Dieu, au rien du sens, au rien de l'existence, rien de l'indicible, mais essayer quand même de lui donner une chair et une signification. Et c'est ça qui m'a conduite aussi à m'intéresser à la religion, tout en n'étant pas croyante, ou à la mystique, comme Sainte-Thérèse d'Avila, qui était ma colocataire pendant 10 ans.
Oui, vous avez beaucoup travaillé aussi sur elle, parmi vos livres sur le génie féminin. On écoute Try Again, Andy Schauff, dans le grand atelier de Julia Kristeva.
And chivalry, I hold the door open and let her pass through. She says thanks to me in a British accent, and I try to answer her in the same voice. She laughs at me, says, what was that supposed to be? I say, I'm sorry, I'm from a different part of the country. She says, come on, baby, try again. And sincerity, I smile at her for just a little too long. Charlie's drinking wine, Judy's laughing at him. She says, I forget that you're such a fancy guy. He tips his hat, says, m'lady, do you come here often? I swear I've seen them do this 100 times before. Come on, baby, try again. Come on, baby, try again. Somewhere between drunkenness and charity, she puts her hand on the sleeve of my coat. She says, I've missed this, I say I know I've missed you too. She says I was actually talking about your cold. She makes me laugh. Oh well, she makes me laugh. I just let my head sink down and fake some deep sorrow. Drunkenness and jealousy, I watch her talking to some old friend. What a reunion, he recognized her across the room. How many years could there be to catch up on? And somewhere between drunkenness and honesty, I make a silent toast to the things that I do and don't miss. Come on baby, try again.